Il est 8h23 à Paris, voici la revue de presse des journaux français. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, retour sur la répression meurtrière à Gaza.
C'était vendredi dernier, l'armée israélienne ouvrait le feu sur des manifestants palestiniens dans la bande de Gaza, bilan 17 morts et des centaines de blessés. Après la longue pause du week-end de Pâques, certains quotidiens reviennent ce matin sur ce drame, notamment Le Monde qui est formel. L'écrasante majorité des manifestants, affirme le journal, ne représentait aucun danger pour Tsahal. Le quotidien du soir rappelle les faits. Une manifestation rassemblant des dizaines de milliers de Palestiniens a donc eu lieu vendredi en 5 points de la zone frontalière avec Israël. L'armée a tué 17 personnes et blessé notamment par balles des centaines de participants dont l'écrasante majorité ne représentait, affirme donc le journal, aucune menace immédiate envers la vie des soldats ni envers l'intégrité territoriale de l'État hébreu. Si les manifestants avaient tenté de franchir la clôture à quelques centaines, voire dizaines, le débat sur l'usage de la force et sa proportionnalité aurait été posé en termes différents, mais ce ne fut pas le cas. Il y avait quelque chose d'inéluctable dans le drame de vendredi, pointe encore Le Monde. Les jours précédents, les responsables israéliens avaient décrit par avance un cauchemar. Des milliers de Palestiniens tentant d'escalader la clôture séparant la bande de Gaza d'Israël. Dès lors, l'armée avait été placé en état d'alerte maximale dans cette même zone frontalière au cours du seul mois de décembre 2017, rappelle encore Le Monde. 8 personnes avaient été tuées à la suite des manifestations contre la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis. La semaine précédant la marche du 30 mars, plusieurs Palestiniens avaient réussi à franchir la clôture. Bref, les nerfs étaient à vif. Voilà pour le contexte. Dans son éditorial, Le Monde termine par cette phrase. Il est vain et absurde d'imaginer qu'une répression sanglante et une vie carcérale produiront des résultats positifs pour la sécurité d'Israël, sans même parler de dignité humaine.
Pour Sud-Ouest, le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël, dans quelques semaines, célébré par Israël, pleuré en Palestine et à Gaza, cet anniversaire doit être une occasion de relancer le processus de paix en dépit de tout.
Oui, on peut comprendre la nervosité des Israéliens, affirme Sud-Ouest, les Israéliens qui voient aussi l'islamisme gagner du terrain au Sinaï égyptien ou encore perdurer en Syrie, mais il ferait peut-être mieux de se féliciter de la dernière déclaration du prince héritier d'Arabie Saoudite, c'était hier, qui assure que les Juifs ont eux aussi droit à un État. Ce faisant, Mohammed Ben Salman a envoyé un message fort aux sunnites du monde arabe pour qui l'existence d'Israël est bien moins problématique que les visées jugées expansionnistes de l'Iran chiite. Encore faudrait-il, tempère Sud-Ouest, encore faudrait-il que l'appel du pied du prince saoudien favorise le redémarrage d'un processus de paix plus que jamais dans le coma.
À la une également, les grèves en France.
Pourquoi ça peut durer ? Lance le Parisien en première page. L'enjeu, explique le journal, c'est la bataille de l'opinion. On sait qu'elle va être longue à gagner, cette bataille. Aujourd'hui, elle reste contre nous, l'opinion, mais il n'y a pas de véritable hostilité vis-à-vis des cheminots. C'est ce qu'assure un responsable syndical cité par le journal qui se fonde sur les récents sondages, faisant état d'une légère progression du soutien des Français à l'égard du mouvement. Les grévistes l'ont bien compris, relève le Parisien, qui sur le terrain multiplie tractages et explications de textes sur les tenants et les aboutissants de la réforme, histoire de se mettre les usagers dans la poche, poursuit le journal. Certains planchent même sur des solutions pour faciliter leur déplacement, de quoi rendre le mouvement populaire des usagers très courtisés, puisqu'ils sont aussi au cœur des attentions du gouvernement. En effet, estime Ouest-France, dans ce conflit, l'opinion publique va jouer un rôle d'arbitre. Elle est versatile et peut se retourner à tout moment dans un sens ou dans un autre, pour ou contre le gouvernement. Tout dépendra de sa capacité à ne pas laisser pourrir la situation. Il n'y a aucun intérêt. C'est bien d'un accord social couplé à une vraie politique ferroviaire dont la France a besoin.
Attention à l'agrégation des mécontentements, prévient pour sa part Libération.
Oui, les étudiants contestent le système Parcoursup. Les cheminots refusent le projet du gouvernement pour la SNCF. Donc, les salariés des EHPAD et des maisons de retraite et des hôpitaux veulent plus de moyens. Les pilotes d'Air France de meilleurs salaires. Les agents d'EDF redoutent une privatisation. Il existe un point commun entre ces différents mouvements, point de Libération, du moins la majorité d'entre eux, le refus de la libéralisation, la défense d'une certaine tradition du service public. À cela s'ajoute paradoxalement une amélioration en cours de la situation économique qui favorise les revendications salariales. C'est le risque que court le gouvernement, prévient donc Libé, voir ce mouvement disparate se transformer peu à peu en référendum informel sur le libéralisme. Cette coagulation ne se manifeste pas pour l'instant, relève le journal, mais elle pourrait s'instaurer à petits pas, quoi qu'en ait pensé Euclide, il arrive en géométrie sociale que les parallèles finissent par converger.
Enfin, il y a 50 ans, jour pour jour, et on l'évoque largement ce matin sur RFI, Martin Luther King était assassiné à Memphis.
Un demi-siècle après l'assassinat de la figure de proue du mouvement des droits civiques, que reste-t-il de ces combats ? Question posée par Le Figaro à Caroline Roland-Diamond, professeure d'histoire des États-Unis à l'université de Paris-Nanterre. Une interview à lire sur le site internet du journal de Martin Luther King. On a retenu la célèbre formule « I have a dream », j'ai fait un rêve, et on a fait de lui l'espoir incarné de la fin de la ségrégation, mais... King était bien plus que cela, affirme Caroline Roland-Diamond, grand défenseur des droits humains en général. Il avait une vision universelle de progrès social, indifférente à la couleur de peau. On oublie, et c'est en partie à cause de la récupération politique du personnage, que Martin Luther King a toujours mis l'accent sur la lutte économique et sociale, en parallèle de son combat pour les droits civiques. Et relève encore la chercheuse française, le rêve de 1963, I have a dream, de Martin Luther King. Cet espoir de liberté, de justice, de fraternité ne s'est réalisé qu'en partie. La force de King, conclut-elle, c'est donc de continuer à insuffler l'espoir que le changement peut se poursuivre, même un demi-siècle après sa mort.
Revue de presse signée Frédéric Couteau.